Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Tim Dugas.
On est ensemble pendant une heure encore jusqu'à 20h sur RMC dans Team Dugas. Le meilleur de Team Dugas est vraiment un moment qui nous a tous marqué cette semaine. C'était mercredi dans Team Dugas. On a rassemblé des champions du monde 98, Emmanuel Petit, Franck Leboeuf, Christophe Dugarry, et on leur a ajouté un invité, Youri Djorkaeff, qui était leur attaquant à l'époque en 98 à la Coupe du Monde, à l'Euro 2000. Par la suite, Youri Djorkaeff s'est confié sur l'ensemble de sa carrière. C'était cette semaine dans Team Dugas.
Nous accueillons Franck Leboeuf et Emmanuel Petit. Bonsoir les amis, comment ça va ?
Bonsoir Christophe, ça va ?
Salut super. Les gars.
Ravi de vous accueillir les copains. On va parler de notre autre copain, Youri Djorkaeff. Vous le savez, on va refaire sa carrière. Julien Cazard est avec nous également. Bonsoir mon Julien.
Et bonsoir les filles.
Salut, ça va ? Il t'a fait rêver, Youri, quand même. Hein
enfin un champion du monde qui m'a fait rêver, oui, oui. C'était temps. Une année, mais c'était parfait.
Exactement. Il a fait qu'une année à Paris ?
Oui, 95-96.
Ouais. Ça a suffi, il est venu, il a gagné, il est parti.
Il a gagné la
vainqueur de bah, Youri, quoi.
On va en parler avec lui. Il est avec nous en direct, Youri Djorkaeff.
Bonsoir Youri.
Salut, ouais. Voilà, comme ça fait du bien d'entendre vos voix, les copains.
Salut le snack. Salut Youri.
Quel bonheur de t'entendre.
Salut, Julien. Salut. C'est bon, ça.
Comment ça va, mon poulet, ce confinement? Ça se passe comment?
Écoute.
T'es où? Parce que toi, t'es un globe-trotteur, toi. T'es où? Dis-nous. Déjà, dis-nous où tu es.
Je suis à Zurich, tu sais. Et je suis au siège de la FIFA. Et en fin de compte, j'ai pas mal de taf. Donc, tous les matins, je suis à mon bureau et je prépare l'après-confinement. Et puis, comme avec la Fondation, on a pas mal de projets. Donc, tu vois, c'est sur du long terme. Donc, je suis là. J'ai fait quelques temps avec mes parents à Lyon. C'était aussi très agréable parce que ça m'a permis aussi de passer du temps avec mes parents, ce que je peux pratiquement jamais faire. Donc, écoute, je touche du bois. Dans ma famille, il n'y a pas eu trop de cas et ça va.
Quoi. Qu'est-ce qui t'a pris, Youri, à ton âge, de commencer à travailler? T'as jamais bossé de ta vie? qu'est-ce qui s'est passé?
Il a organisé
t'as eu un choc à la tête? T'as eu un choc à la tête? Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, non, mais c'est sûr, il n'y a plus Manu, il n'y a plus Dédé, il n'y a plus Bisous pour courir. Foiré.
Non, mais la vraie question, c'est pourquoi t'as pas sorti un deuxième album? Parce que franchement, c'est une telle réussite dans les disques. C'est que, parce que tu sais que quand même sur Google, quand tu tapes chanteur arménien, t'es devant Aznavour. Hein.
Comment c'était le titre de la chanson déjà, Youri, tu t'en souviens?
Vivre dans ta lumière.
Et le clip est génial. Hein. Ouais. Je vous invite à voir le clip. C'est un must. Ouais. Hein.
Mais d'ailleurs, la lumière de qui en fait?
Ouais, parce que, non, mais surtout à cette époque, t'avais pas la lumière toi par contre. Parce que pour faire une chanson pareille, qu'est-ce qui s'est passé?
C'était pour éclairer les autres.
Alors Youri, j'ai deux questions avant de commencer à dérouler la carrière. Déjà le surnom The Snake.
Qui te l'a donné celui-là?
C'est le gardien remplaçant de l'AS Monaco. Et ensuite en équipe de France, il y a pas mal de joueurs de l'AS Monaco, donc comme à Monaco on m'appelait le Snake, c'est resté, voilà, en équipe de France c'est arrivé.
Mais ça vient d'où? Ça veut dire quoi?
Pris par Luis Fernandez, un peu déformé, on va dire.
Oh, merci.
Luis, un peu déformé, mais bon, c'est resté le Snake, quoi.
Non, parce que le Snake, ça veut dire que ça peut être aussi péjoratif, c'est-à-dire quelqu'un qui va.
Pour Thierry Henry, l'anaconda, c'est autre chose.
Non, mais le problème, c'est que
le Snake, c'était lié à sa frappe de balle, parce qu'elle piquait.
Exactement.
L'anaconda, c'était pris par Thierry Henry, donc forcément, tu pouvais pas.
Ouais, non, mais le Snake, ça veut dire ça avoir quelque chose avec le football.
Oui, avec la frappe. C'est la frappe de balle.
La frappe, exactement. Ouais.
Elle piquait.
Manu, tu t'en souviens?
Exactement. Exactement. Tu sais.
Moi, jamais appelé le Snake, moi.
Je me suis rendu compte que fallait, à un moment donné, fallait vachement bosser devant le but. Et donc, c'est pour ça que voilà, je me suis mis avec le gardien remplaçant. Puis on a frappé, c'est devenu le Snake.
Ouais, du gars, on a hésité entre la vipère et la couleuvre. On n'a jamais.
C'est jamais dit. C'est le soleil.
Et alors, l'autre question avant de dérouler la carrière, c'est quand même du gars qui arrête pas de dire que t'étais un énorme croqueur sur le terrain. Et que la balle, elle revenait pas souvent. Quoi, excuse-moi, du gars.
Je dis les choses.
Je vais préciser. Il y avait le 1, il y avait rarement le 2. Voilà. Il s'en cachait pas, Youri, parce qu'il gardait le ballon pour trouver de lucarne. Il a vite réfléchi qu'il valait mieux pas me le rendre, le ballon. Donc il a dit je le garde et je le mets dans la lucarne.
Et le but de Thuram, c'est pas un 1-2 avec Youri?
À l'extérieur du
pied. Magnifique.
Eh oui, monsieur.
C'est le seul. C'est le seul.
Yastan, je suis là.
Par contre, à l'entraînement, T'étais content quand t'avais pas Yuri dans ton équipe, parce que tu sais que le mec il défend pas, et tu sais qu'à l'entraînement il y a souvent les équipes qui défendent qui gagnent. Et quand t'avais pas Yuri dans ton équipe, tu disais bon c'est bon, on l'adorait, hein, mais pas l'entraînement.
Tu gagnais parce qu'il marquait tous les buts aussi.
Grave. En match. Yuri c'était pire que ça. Yuri disait.
Franck le boss, tu vas pas nous faire le technicien de l'équipe là.
Non plus. J'ai jamais dit ça.
Et Julien, je sais pas si tu es joué Julien, mais bon, tu vas pas nous faire le technicien.
Non mais par contre Yuri, la spécificité de Yuri c'était quand il était critiqué, il disait, vous inquiétez pas les gars, ce soir Yuri va marquer. Et il marquait.
Justement, moi Yuri, on va parler de ta carrière, de ton immense carrière, tu as joué avec les plus grands, tu as fait une carrière remarquable. Si tu devais parler de toi, je sais que c'est bon, t'aimes pas trop ça, même si ça te dérange pas malgré tout, c'est quoi ta plus grande qualité, ta plus grande force, parce que tu as eu un parcours quand même assez particulier, ta plus grande force, qu'est-ce qui a fait que Yuri Djorkaeff, quand on parle de Yuri Djorkaeff, c'est quoi sa plus grande force?
Croire en moi.
C'est ça. T'as jamais douté?
Voilà. Non, j'ai jamais douté. Tu sais, tu te souviens encore, nous on a eu de la chance parce que à nos âges, quand on a commencé le football, il y avait des vrais éducateurs, des gars qui étaient là, fait, pour faire progresser. Aujourd'hui, si tu loupes quelque chose, tout de suite t'es pas bon, tout de suite, tu vois. Et puis il y a une liste de gens qui attendent. Mais je pense que j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont fait naître ça en moi, parce que tu n'es pas avec. Et puis, déjà, c'est la famille, les parents. Et puis après, tes entraîneurs. Et puis d'un coup, voilà, tu te dis, putain, j'ai loupé un truc, c'est pas grave. J'ai loupé deux trucs, c'est pas grave. Et puis, je pense qu'en ce moment, je sais pas, avec tout ce qui se passe, c'est vrai qu'il faut croire en soi. Et moi, c'est une de mes qualités, c'est croire en moi, ne pas douter.
Voilà. Mais Yuri, à tes débuts, tu n'étais pas prédestiné à une carrière de footballeur parce que tu t'es aventuré dans pas mal de disciplines avant ça.
Oui, tout à fait. J'ai cherché ma voie. Tu vois, l'étiquette était facile. Mon père était joueur de foot, donc je vais suivre la voie. Mais en fin de compte, je te dis, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé explorer un petit peu que j'avais envie de faire et qui trouvaient pas ça normal, et c'est ce que j'ai fait aussi avec mes enfants. Mais par contre, ils me disaient toujours, quand tu commences quelque chose, investis-toi, même si toi j'ai fait du judo, j'étais nul, j'ai fait du judo, t'imagines, dans le judo j'étais nul, tout ça, mais bon, j'ai fait une année, puis après au bout d'une année j'ai dit ça me plaisait pas, donc j'ai fait d'autres choses, quoi.
Et donc, on va arriver sur la carrière professionnelle avec une explosion. Alors aujourd'hui, ça nous paraîtrait très tardive comme explosion au plus haut niveau, mais à l'époque, on n'explosait pas non plus à 18 ans. Il y a plusieurs saisons en D2 à Grenoble, à Strasbourg, avant donc d'arriver à Monaco.
Ouais, tout à fait. Mais tu sais, la D2, D3, D4, c'était très difficile à cette époque-là. Et moi, quand j'ai commencé à Grenoble, j'avais 15 ans et demi en deuxième division.
Ouais.
Et 15 ans et demi, je peux te dire une chose, j'ai joué contre Montpellier, il y avait les frères Passy, il y avait Laurent Blanc, il y avait des joueurs comme ça. C'était déjà des grandes responsabilités et des gros matchs.
Ouais. Ouais. Donc
c'est vrai que j'ai pas explosé en Ligue 1 comme ça a dû être. Ça a dû se passer. Mais en Ligue 2, j'ai bien bourlingué et je me suis fait une belle carapace en Ligue 2 parce que fallait les jouer, les matchs en Corse, dans le sud de la France, quand c'était des matchs un peu tendus, tu vois, mais ça te forge aussi.
Oui, puis, on parle d'une période avant l'arrêt Bosman où les meilleurs joueurs français sont là en D1, donc ça augmente le niveau de la D1 aussi. Enfin bon, voilà. Et donc la D2 est plus relevée aussi à cette époque-là. Et donc, derrière, il y a le transfert à Monaco en 90. Et donc là, Manu, tu as le souvenir de voir arriver Yuri dans ton équipe?
Moi, jeune aussi, hein, j'étais tout jeune, je commençais, donc je connaissais un petit peu Yuri. Je pense qu'on se connaissait pas personnellement, mais je savais ce qu'il était capable de faire sur le terrain, notamment dans son efficacité offensive en D2. Il arrivait de Strasbourg et il y avait beaucoup d'espoir autour de lui. Et il est arrivé comme si de rien n'était, comme s'il était avec nous depuis X années. Moi, j'arrivais du centre de formation, donc je connaissais déjà la structure, je connaissais la plupart des joueurs, donc c'était pas étranger pour moi. Mais Yuri, ce qui est une de ses forces, si tu peux reprendre la question de Duc tout à l'heure, c'est que son adaptation, partout où il est allé, il s'est adapté très rapidement, comme si de rien n'était, quoi. Donc le fait d'arriver de Ligue 2, on a senti qu'il n'y a pas de pression particulière et tout de suite à l'entraînement on a vu le gars dans son bagage technique et dans son réalisme dans la surface de réparation, le mec il avait un laser dans les yeux quoi à chaque fois et ça faisait mouche tout le temps quoi.
Il a pas joué, t'as joué combien de temps à Strasbourg Yuri?
J'ai joué un an et demi.
Un an et demi. Moi je sais que grâce au transfert de Yuri à Monaco, moi je viens à Strasbourg. C'est la même époque puisque c'est pendant l'hiver 90.
Même là il t'a fait gagner de l'oseille. Tu t'en rends compte?
Ouais, mais non, mais Yuri je lui dois tout, mais moins que Bilic. Mais je lui dois tout. Mais il a tout le monde à Strasbourg a gardé un souvenir impérissable de Yuri, de ses qualités en tant que joueur et bien sûr en tant qu'homme. Il a fait qu'un an et demi. Et à chaque fois, partout où il est passé, ça a été très probant.
Oui, ça c'est vrai, ça va être le fil conducteur. Oui, Yuri.
Si je peux raconter.
Bien
si
sûr.
Je me souviens très bien quand je suis arrivé à AS Monaco. Ça veut dire un vestiaire, tu sais, il n'y avait que des mecs, des costauds, tu vois. Et il y avait Manu, il avait sa moustache. Manu, il a dû avoir un.
Et l'arrêt au milieu.
Il avait une espèce de voiture.
Incapotable.
Attends, écoute-moi bien. Ce mec-là, il s'asseyait dans le vestiaire, il parlait à personne. À personne.
Ça n'a pas changé, ça.
17 piges, il était là, il était assis, il regardait tout le monde comme ça. J'adorais. Tous les matins, j'arrivais, hop, il disait bonjour, il s'asseyait, il se préparait tranquillement. Il parlait pas. Et après, l'entraînement, grande classe.
C'est gentil.
Tu sais vraiment comment ces années à Monaco, on les a appréciées ensemble. Et puis aussi, comment j'ai vu ta grande évolution, parce que c'est vrai que t'as joué dans l'axe, après t'as joué un peu de partout en défense, et puis après t'as fini en milieu. Et c'était.
Moi, je me rappelle d'un match avec Yuri. Je ne sais pas si tu vas me contredire, mais c'était au stade Louis II. Je ne sais plus contre qui on jouait. Et c'était en championnat. C'était un match le dimanche de mémoire. Et tu avais marqué un but qui m'avait impressionné. Alors, tu en as marqué pas mal qui m'ont impressionné, notamment celui de l'Inter, qui restera gravé à jamais dans les mémoires de tout le monde. Mais oui. Celui que tu as marqué, un dernier petit de poitrine. Tu te rappelles de ce but-là?
Ouais, je me souviens.
Je me suis dit, j'ai jamais vu un but pareil.
Ouais.
Le mec a marqué en faisant un amorti de poitrine, il est rentré dans le ballon avec, et ah il oui. est rentré dans le but avec le ballon sur la poitrine.
Je me souviens très bien. Je me souviens tous des buts pratiquement. C'était une façon aussi de préparer. Tu refais un petit peu, tu sais, ton reset. Tu regardes tous les buts, tu les enregistres dans ta tête et puis. Et puis des fois, quand ça arrive comme ça, c'est vrai que j'avais jamais marqué la poitrine, mais je l'ai bien dans la tête.
Et tu te rappelles le tacle que t'avais fait pour défendre?
Mais j'en ai mis 10, moi, donc c'est pour ça que je me souviens de mes buts.
Et Yuri, tu te rappelles ce match où tu reviens défendre et tu tacles comme un malade?
Ah non, ça je veux les images.
C'est normal, c'est normal.
Non, mais tu t'es trompé, là.
C'était pas toi.
Tu sais, Yuri, il y a une chose aussi, il y a une chose qui m'a marqué, moi, pour avoir évolué à l'entraînement avec toi au quotidien. C'est, je pense que t'es un des premiers qui a inventé la frappe cachée, en fait. C'est-à-dire à chaque fois, c'est peut-être pour ça que t'as eu ce surnom de Snake aussi avec les gardiens à Monaco, parce que ils savaient jamais où t'allais mettre la balle. Et au dernier moment, on avait toujours l'impression que t'allais la mettre à gauche, mais tu la mettais à droite.
Et c'est Lucas, c'est pareil. Hein. C'est lui qui savait pas. Lucas, c'est la frappe cachée, c'est lui qui s'est caché lui-même.
Il a inventé aussi le 1-2 caché. C'était le 1-2 caché aussi. Ah, même ses partenaires. Ouais. Le Jean Triangle à 2. Il y avait Jean Triangle à 2. Il gardait le ballon pour lui.
Alors, qui tire le premier corner sur le premier but de...
C'est Yuri, le premier but d'un final.
Non, c'est Manu.
C'est toi le premier.
C'est Manu le premier.
Donc ouais, ce soir, on a les deux mecs qui ont fait briller Zizou.
Oui, le premier, c'est Manu.
Ah pardon, c'est moi.
Et le deuxième, c'est Yuri.
On a les deux mecs qui ont fait briller Zidane en 98.
Manu, si tu t'en souviens pas, il n'y a pas de problème. C'est pas un match marquant. On a joué plein.
Ouais.
Il n'a pas marqué, Manu. Tu vois, c'est encore il avait marqué.
Ouais, le mec fait passe des et il marque un but, il se rappelle de rien.
Ouais, le petit exter contre la Croatie sur Tutu aussi, hein, tu vois, ce petit
Julien sur le 1-2. Ouais. Alors, les années monégasques sont les années de l'explosion, vraiment, hein, ces 5 saisons là-bas, où vous découvrez ensuite l'équipe de France lors de cette période monégasque, il y a énormément de buts marqués. Au niveau des titres, c'est peut-être la petite frustration, parce que hormis la Coupe de France, il y a beaucoup soit de deuxième place, soit de finale perdue.
On en discute ou...
Tu peux pas.
C'est pour les deuxièmes places, ouais.
Ça, hein, c'est ça, tout le monde à Julien, il a aussi les cassettes.
Moi, j'ai un dossier énorme.
Oui, parce que c'est l'époque de l'OM de Tapie. On sait que les Monégasques, Manu notamment, nous en a souvent parlé, on estime que les titres auraient dû revenir à Monaco. C'est ça, je résume l'affaire.
Ce qu'on doit à nous-mêmes, je pense, à notre équipe et à peut-être à notre inexpérience, c'était la finale de la Coupe des Coupes qu'on perd contre le Werder Bremen au Portugal. C'était une grosse frustration. Je pense que on avait vraiment une équipe pour aller au bout. On avait cette possibilité-là et on est passé à côté de notre finale. Donc
on
après,
Furiani,
les autres titres, on peut reparler aussi de la finale perdue contre le Milan AC à l'époque, sur un match sec. À l'époque, les Champions League, ça jouait en match sec en demi-finale. On reçoit le Barcelone dans le groupe. Il y avait deux groupes, on reçoit Barcelone. Si on gagne Barcelone, on est premier, on joue contre Porto à la maison en demi-finale et on peut aller en finale. On fait un match nul et on se retrouve contre le Milan. Milan, cette année-là, gagne 4-0 contre le Barcelone.
Tu parles de quelle année, toi? 95?
Ouais, on s'est fait exploser à San Siro.
Mais tu sais que, alors, je te l'avais rappelé quand c'était vu, c'est que si vous faites cette Ligue des Champions, c'est parce que le PSG refuse de la faire.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison.
C'est parce que le PSG refuse, pour des raisons, entre guillemets, à l'époque, Canal+, est énormément diffusé dans les Bouches-du-Rhône, et Pierre Lescure refuse le titre et refuse de faire la Ligue des Champions.
Oui,
il préfère la Coupe des Coupes.
C'est vrai,
il préfère faire la Coupe des Coupes. Mmh. Et du coup, c'est Monaco qui est repêché et qui fait une super campagne européenne.
Je reviens juste sur l'histoire des titres de D1. Est-ce que c'est une blessure, un truc que vous avez traîné pendant un moment, le fait d'être deuxième et de se sentir injustement deuxième par rapport à ce qui se passait? Ou est-ce que c'est un truc que vous avez évacué assez vite?
Tu l'évacues assez vite parce qu'après tu pars à l'Inter de Milan et tu joues contre la Juve. Donc c'est encore un autre niveau, tu vois.
C'est l'époque de Moji et la Juve.
Ouais, voilà. Donc après tu dis, on va voir le prochain club.
Et maintenant t'es à la FIFA.
Ouais, maintenant je suis à FIFA, je descends au 6e étage, je regarde les dossiers, je regarde les trucs.
C'est fou, ça. Envoie-nous des photos, parce que je veux le voir quand même.
Il y a toujours des grandes frustrations, surtout quand derrière, il y a eu quand même des choses qui ont été
suspicion, on va dire,
qui sont sorties, des choses qui sont, tu vois, qui étaient flagrantes, quoi. Tu vois, sportivement, tu fais des saisons, c'est des longues saisons. Et surtout que Marseille avait une équipe extraordinaire. Je veux dire, quand tu fais toute une saison et tu fight pour le titre contre cette équipe-là, c'est beau, quoi, tu vois. Et puis t'es à la sortie, tu te rends compte, c'est une qualité malversation. Tu l'as quand même entre la gorge.
Bien sûr, on peut le comprendre. Alors, comment se fait le transfert au PSG, donc, à l'issue de la saison 95? Comment ça se passe?
Il n'y a pas de transfert.
Oui, parce que je suis en fin de contrat.
Exactement, je suis en fin de contrat et j'ai beaucoup de possibilités. Mais pour moi, j'ai fait 4 ans à Monaco. Monaco m'a révélé en Ligue 1, en équipe de France. J'ai fait le meilleur buteur avec l'ASM. J'ai appris énormément avec Arsène. Et puis surtout, ce groupe de joueurs, c'est une grosse qualité à l'ASM. Derrière, pour moi, la consécration qui était française, c'était le PSG. Je devais avoir mon expérience parisienne. J'ai grandi, je suis né à Lyon, grandi un peu à Marseille. Mon père était capitaine olympique de Marseille, après il était capitaine au PSG. Donc le Parc des Princes, c'est là où j'ai vraiment bercé mon enfance. Pas trop à Lyon, mais plus à Paris. Donc j'avais des souvenirs de petit, et je me suis dit, avant que je parte à l'étranger, parce que je savais qu'un jour ou l'autre je partais à l'étranger, je ne reviendrai pas en France. Il fallait que j'aie cette expérience PSG. PSG, c'était aussi un club fort où j'avais un sentiment que je pourrais faire quelque chose. Et puis surtout, ce Parc des Princes, quoi, ce public. Voilà.
Et ça se passe très, très bien, alors qu'il y a quand même un poids sur les épaules, parce qu'il faut remplacer Ginola et Wea qui partent à ce moment-là.
Non, on ne te le vend pas comme ça. Ouais. Toi, on ne te dit pas, tu vas remplacer Ginola ou Georges. On te dit, voilà, il y a...
Mais dans le public, nous, on le pensait, je te le dis. Hein. Dans le public, nous, on se disait, il n'a pas été transplanté, le petit bonhomme.
Sûrement, mais tu sais, il y avait eu quand même trois années de demi-finale et Paris Saint-Germain voulait passer à autre chose. Il voulait passer voulait casser un peu la dynamique. On sentait qu'il y avait une dynamique qui était un peu ascendante à cette époque-là. Il fallait des joueurs frais, nouveaux, et puis surtout, je crois, prêts à relever le challenge de gagner cette coupe. Et on était engagé en Coupe des Coupes. Et je me souviens très bien, la première discussion que j'ai eue avec Michel Denisot, on a parlé juste de la Coupe d'Europe. Voilà. L'objectif, c'est qu'on gagne la Coupe d'Europe. Ouais. Moi, je suis venu pour gagner la Coupe d'Europe. Voilà.
Donc, et vous l'avez fait,
d'ailleurs. C'était sûrement ma première discussion que j'ai eue avec Michel. Et derrière, tu vois, c'était lancé, quoi.
Exactement, vous gagnez la Coupe des vainqueurs de Coupe cette année-là, donc avec le PSG.
D'ailleurs, enlevons un doute, mais t'es pas resté longtemps au Paris Saint-Germain, mais ton dernier match, tu t'es illustré lors de ton dernier match, non ? Au Parc des Princes ?
Ouais, j'ai marqué. J'ai fait.
T'as pas fait le coup du chapeau ?
Ouais, ils m'ont donné 3 buts, mais je pense que j'en ai marqué 4. Ils m'ont donné
2 buts.
Non, mais dans ma statistique, ça va. C'est comme ces derniers matchs, je l'ai fait, mais ça faisait chier. C'est un défenseur de Bastia, je crois, qui m'ont donné. Mais c'était extraordinaire, parce qu'en plus, on venait de remporter la coupe. C'était mon dernier match. Je savais que je partais avec une certaine nostalgie. Ce Paris, ça a été quelque chose d'assez énorme pour moi en un an, tu vois. J'aurais aimé que à cette époque-là, les dirigeants viennent au mois de décembre et j'avais envie de signer un contrat, mais longue durée, tu vois, plus de 10 ans, tu vois, et rester à vie à Paris, parce que c'était vraiment ma ville. C'était vrai, et c'est toujours ma ville, c'est toujours mon stade. Et quand je suis parti, j'avais la nostalgie, mais aussi l'amour, tu vois, du bienfait, l'amour de.
Mais pourquoi vous n'êtes pas resté plus?
Bah oui, pourquoi t'es parti?
Pourquoi je suis pas resté plus? Parce que j'avais 2 ans de contrat et derrière une rencontre extraordinaire avec Massimo Moratti, le président de l'Inter de Milan, et un dîner chez lui où déjà l'Inter c'était aussi mes couleurs de l'époque, quoi. J'ai grandi avec ces couleurs-là, et puis d'un coup, tu vois, cette possibilité. C'est toujours une rencontre, hein. C'est toujours des belles rencontres, hein. Vous l'avez connu, vous, les gars, aussi.
Puis un sacré vestiaire aussi à l'Inter.
Tu vois, après, c'est l'Odex, ça fait pas la différence, quoi. C'est vraiment les mecs qui te disent, qui te parlent. Ça peut être un coach, ça peut être un président, ça peut être, je sais pas, tu vois, un public qui t'appelle. Mais voilà, je crois que si ça s'est pas réuni, on fait jamais les carrières qu'on a fait, quoi. Et un Inter de Milan, Moratti, grand seigneur, dîner chez lui, derrière, voilà, j'avais ma tête à l'Inter, c'était sa première
grosse recrue. C'était avant ou après la Coupe du Monde 98, ça?
Juste avant.
C'est 96, je signe. En fin de compte, c'est après championnat d'Europe.
Non, parce que je fais référence à Ronaldo que t'as vu à l'Inter et que.
Après, l'année d'après.
Il arrive l'année d'après, ouais.
Mais attends,
Ronny, il arrive l'année d'après.
Au PSG, on parle des beaux buts et tout, on parle de celui de l'Inter, mais au PSG, t'as une idée incroyable. Je me rappelle, il y a un 1-2 ou
30 buts en gros sur la saison.
Tu fais une talonnade à Rai qui pique la balle, elle passe par-dessus un défenseur, et derrière, tu fais une reprise de volée, lucarne opposée. C'est un truc de dingue.
C'est-à-dire que.
Et le but contre la Corogne, là, pour le coup, c'est vraiment un but de Snake. Ça part comme un coup de fusil.
Exactement. Non, mais à Paris, j'ai marqué des buts importants et surtout. Surtout, il y avait aussi, tu vois, j'étais
flamboyant.
Puis il y avait Ra, il y avait Vincent.
Le plus beau pour toi, c'est lequel, Yuri?
Le plus beau pour moi, on va parler PSG, peut-être la Corogne, parce que tu sais, le club arrivait toujours en demi-finale, et puis demi-finale, ça foirait après. Là, d'un coup, en marquant ce but, ça tu vois, c'est. Voilà.
C'est une grosse équipe en face, hein? La Corogne, c'est Roy Macaillet tout à l'époque.
Mais quand tu prends l'équipe du PSG à cette année-là, il y a, je crois qu'il y a 8 qui jouent en équipe de France. Hein.
Ouais.
Je te prends du Alain Roche, du Bernard Lama, Guérin, Le Guen.
Sacrée équipe.
Il y a une sacrée équipe. Ouais.
Bon, on va continuer d'en parler. Macaillet, je pense que c'est juste après, Julien, quand même. Hein.
Après, c'est oui. Bébéto, alors.
C'est le 4-3, c'est le 3-0-4-3, Roy
Macaillet.
C'est Bébéto, non? Alors, c'est l'époque Bébéto?
Oui, c'est ça.
Il y a une grosse équipe.
C'est ça.
Je sais qu'il y a une grosse équipe.
Yuri, reste avec nous. On a encore plein de trucs à dire sur ta carrière. Il y a quand même l'équipe de France à aborder. La suite de la carrière de Yuri Djorkaeff dans une seconde dans Team Duga.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Duga.
Si vous nous rejoignez maintenant sur RMC, soyez les bienvenus. bienvenue. On se remémore les meilleurs moments de la semaine de Team Duga. Et mercredi, un moment fort avec la carrière de Youri Djorkaeff que l'on continue de décortiquer avec les membres de la Dream Team 98, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry, Franck Leboeuf, Julien Cazard était là également. Et donc, bien sûr, Youri Djorkaeff. On était donc aux années Inter de 96 à 99. Là, j'imagine que c'est une période très importante, la découverte de l'étranger, la découverte d'un énorme effectif. Moi, dans mes souvenirs, à l'Inter, il y avait 30 joueurs énormes à cette époque-là.
Ouais. Il y avait d'où son nom aussi, il y avait plein de nationalités différentes, mais surtout, il y avait 30 joueurs qui étaient incroyables.
Et devant, il y avait une ligne d'attaque, pardon Yuri, il y avait une ligne d'attaque assez extraordinaire. Il y avait le Chilien aussi, il y avait
Zamorano.
Zamorano,
c'est extraordinaire.
Cano qui était là aussi.
Donc Cano,
il y avait Ronaldo, il y avait Ventola, il y avait
Djorkaeff.
Il y avait
déjà l'Argentin au milieu de terrain là qui courait partout.
Simeone, oui.
Zanetti.
Et Yuri, quand t'arrives dans ce vestiaire, T'as aucun doute, t'arrives, t'es tranquille, t'es relâché, t'as aucun doute.
C'est Youri.
Ouais, tu sais, quand j'arrive dans le vestiaire, j'observe toujours, tu vois, et vraiment, hein, à l'Inter, ça m'a fait, mais de partout, toujours je l'ai, j'ai toujours observé, et puis je suis rentré, tout ça. À l'Inter, je me suis dit, je vais rentrer dans le vestiaire, je vais prendre le capitaine, je vais défoncer.
Donc, ouais.
Je te jure, c'est le capitaine Bergomi.
Oui,
J'arrive vers lui comme ça, mais je suis enragé, toi, j'ai envie de tout casser, ce premier jour. Il me prend comme ça, il me dit, assis-toi, viens, je vais te montrer la maison. Comme ça. Il m'a pris, et en fin de compte, c'était le capitaine qui prenait en main les nouveaux arrivés. Et c'était le capitaine qui faisait découvrir le club, les joueurs, les mentalités, tout ça. Et c'était assez incroyable. Toi aussi, Christophe, t'as joué en Italie. Tu sais, quand t'es à table, tu veux te lever de table, non, tu te lèves pas de table, t'attends que le capitaine se lève ou te donne la permission de te lever. Toi, il y avait en fin de compte toute cette hiérarchie, ce respect qui était vachement agréable. Et donc, du coup, il m'a pris comme ça, il m'a dit, assieds-toi là, reste là. Pendant le temps du stage, 3 semaines du temps du stage, j'étais à côté de lui, il m'a fait voir, ça, mais avec un très, très grand respect. Et en fin de compte, il a fait ça à tous les nouveaux arrivants, et après, c'était aussi aux plus anciens, étrangers, on va dire, qui étaient là, qui faisaient la même chose, tu vois. C'était très, très agréable. C'est ce que j'ai fait moi un petit peu aussi avec Ronaldo, quand Ronaldo est arrivé, tu vois. J'étais pendant tout son début, j'étais à côté de lui, je l'expliquais, tu vois, et du coup, il y avait une vraie transition à chaque fois c'est pour ça qu'on avait vraiment une grosse équipe, mais aussi un gros vestiaire, une bonne entente entre nous.
Moi, j'ai fait pareil avec Ronaldo pendant la finale où je lui ai dit, écoute, viens ici, je vais t'expliquer. Alors là, c'est Stade de France, là, c'est les vestiaires.
Mais du coup, Bergomi, il avait le temps de s'entraîner quand même, parce qu'il y en avait des nouveaux à qui il fallait faire visiter le centre d'entraînement.
Ouais, mais tu sais, Bergomi, il était champion du monde, il avait 18 ans, c'était Zio. Zio, c'est l'oncle en italien, tu vois. Et tout le monde l'appelait Zio, tu vois.
Et Ronaldo, vraiment, alors c'était... L'époque avec Ronaldo qui est à son sommet à ce moment-là.
Ronaldo, c'est phénoménal, tu vois. Ronaldo, c'est le phénoménal, je crois qu'il a...
C'est le plus fort avec qui t'es joué ?
Ouais, parce que, tu vois, Zizou, extraordinaire. Après, j'ai eu d'autres joueurs, genre Joël, qui était un diamant brut, tu vois, qui était vraiment incroyable. Je pense qu'il y avait Rony, il a été le vrai joueur attaquant moderne, tu vois, capable de prendre le ballon,
un joueur d'instinct,
de se retourner, d'aller vite. Toi, avant, on avait des attaquants qui prenaient juste l'espace ou qui attendaient, qui avaient des caractéristiques assez typiques d'attaquants. Lui, c'était vraiment un joueur moderne, quoi. C'était incroyable. Il pouvait jouer tout seul devant, il pouvait jouer sur les côtés, il revenait souvent chercher le ballon. Tu vois, il avait une percussion qui était fou, quoi.
Et alors, juste après l'Inter, donc, et attends, après on va parler à l'équipe de France.
On va parler de l'équipe de France après.
Non, juste après, juste d'accord. Savoir pourquoi Kaiserslautern après l'Inter.
Pourquoi Kaiserslautern? Parce que j'avais la possibilité de jouer encore en Italie dans d'autres clubs, et c'était, pour moi, c'était impossible. Pour moi, il n'y avait qu'un club, c'est l'Inter, et ça restera toujours mon club, l'Inter. J'avais après la possibilité d'aller en Espagne, mais mais il me fallait quelque chose d'autre. J'avais les années à Paris, à l'Inter, c'était, il fallait que je retouche un peu.
T'as l'impression que c'est toujours l'histoire d'une rencontre, en fait, Yuri.
Ouais, c'est vrai qu'Otto Rehagel, c'était un homme extraordinaire. Il me baragouillait en allemand, en anglais, c'était. Pareil, tu sais, j'avais mon père qui était mon agent avec un avocat, mais c'était surtout moi qui voulais voir ou l'entraîneur ou le président qui voulait m'asseoir en face de ces gens-là et voir ce qu'ils pensaient de moi, ce qu'ils attendaient de moi. Et du coup, ça rendait tout de suite la connexion facile, quoi. Voilà. Tu vois, il n'y avait pas de bullshit, quoi. Voilà.
Otto Rehagel, c'est celui qui a gagné le championnat d'Europe avec la Grèce en 2015. Ouais.
Par rapport à l'Inter, on oublie, c'est qu'à cette époque-là, à cause de la Juve de Moji, vous faites pas la Ligue des Champions. Et en 98, la Coupe de l'UEFA que gagne l'Inter, franchement, ça vaut une Ligue des Champions parce que l'épreuve, elle est presque plus dure que la Ligue des Champions. Si l'Inter de 98 la joue, à mon avis, il tape le Real Madrid de Mijatovic. Ouais. Enfin, c'était.
Et tu sais qu'en 97, on perd la finale à la maison, on perd la finale à couper. Ça, avec l'Inter de Milan. Donc, 96, je gagne avec PSG la Coupe des Coupes. Derrière, je fais l'Inter 97, on perd la finale au Coupe de UEFA. Et l'année d'après, 98, on la gagne. Et en plus, on la gagne, nous, au Parc des Princes, contre Lazio, 3-0. Extraordinaire le match. Rodi.
Deux buts de Ronaldo.
Incroyable.
Ronaldo, ce qu'il fait, tu peux regarder mille fois les virgules, les crochets, incroyable, quoi.
Le ballon,
il fait deux fois de frappe, il le gardien est à terre et derrière il marque.
C'est ça. Et dans ce parcours, vous sortez Strasbourg, notamment, dans cette Coupe de l'UEFA 98.
Qui est très fort, d'ailleurs. Qui est très, très fort.
Très gros match.
Okpara, il fait mal à Ronaldo.
C'est un gros match. Avec Zitelli, Inouma, tout ça. Alors, Yuri, il faut qu'on avance un peu. Pardon, je reprends la main.
Parce qu'il y a quand même
une équipe de France. Voilà.
Jean-Louis, tu parles doucement. C'est Youri Djorkaeff, quand même. Donc, attention, quand même.
Pardon. Des gardiens, pas mal de
fois. Moi, tu peux parler comme tu veux, mais c'est quand même Youri Djorkaeff.
Même toi, je te dois le respect. Donc, Youri, l'équipe de France, première sélection, c'est 94 ? Non, 93 ?
93.
93, oui, c'est ça. Alors, comment ça se passe les premières années ? Comme les premières années à l'Inter, vous cherchez le capitaine pour l'emplâtrer ?
Non, 93, je suis content d'aller en équipe de France, mais tu sens quand même qu'en équipe de France, il y a quand même une grosse rivalité entre Marseillais et Parisiens.
Les Parisiens ne sont pas les bienvenus. Oh, mais vous n'êtes pas Parisien.
Non, moi j'étais à l'AS Monaco. Donc avec Manu, on était là, on était tranquille. On était le pays neutre.
Les neutres, les Suisses.
Ouais. mais tu sens qu'il y a quand même une grosse. Pour ma première sélection, en plus, c'est la double match France-Israël et France-Bulgarie à la maison.
Ouais, sympa.
On va pas refaire l'histoire, mais il faut un point pour nous qualifier. Et moi, je suis meilleur buteur du championnat. La chance, je me vois aller aux États-Unis, bien sûr, avec l'équipe de France. Je rentre dans le groupe et là, je vois qu'il y a quand même un malaise, quoi, en équipe de France. Et que ça se passe mal, ça s'est vraiment mal passé. Mais la première chose que je me suis dit en équipe de France, c'était pas de venir, c'était surtout d'y rester, voilà. Et je me souviens, on est rentré après avec Manu et Arsène Wenger, qui était notre entraîneur à l'époque, et j'avais dit, voilà, maintenant j'ai mis un pied, on
ne
parle plus de cette équipe de France.
L'équipe de France de cette époque-là, quand tu dis qu'il y a un malaise, est-ce que c'est plutôt des non-dits ou c'est plutôt des confrontations que vous allez subir ?
Non, quand je dis un malaise, tu sens qu'il n'y a pas une osmose. Tu sais, après, l'équipe de France a commencé à se reconstruire. Et là, les copains qui sont sur son plateau, ils le savent. Après, si tu n'as pas une osmose, tu ne peux pas, dans les moments difficiles, gagner ces matchs-là. Tu peux pas renverser des situations. Tu peux pas quand t'es pas bien, prendre la main d'un coéquipier, aller dire allez c'est pas grave, ou alors même des fois te prendre la tête, mais tu sais que putain c'est pour le bon. Toi tu sentais qu'il y avait
des non-dits,
super joueurs. Il y avait des super joueurs. Il y avait vraiment des super joueurs, mais il manquait cette alchimie que nous on a créée derrière en 96 et pour arriver en 98. Au summum.
T'es en concurrence avec qui en équipe de France, toi, à ce moment-là?
Devant, je joue avec Ginola, Cantona et Papin. Et moi, je suis derrière.
Ouais. Et là, l'osmose, elle n'y est pas, là.
Youri, ton premier match, moi, mon souvenir, le premier match pour moi, tu marques les esprits, c'est un match amical France-Italie à Naples. Je crois que c'est un peu juste après match. Cette période. C'est ça, où on sent que là, ouais, et tu crois que tu marques, on gagne 1-0.
C'est ça. C'est mon premier match titulaire. Derrière, j'ai enchaîné 4 matchs avec l'équipe de France, j'ai marqué 4 fois. Donc c'est vrai qu'en très peu de temps, Aimé fait l'intérim. Il était placé là pour intérim parce que Gérard Houy a démissionné. Et derrière, il y a un match après à Lyon. Après, il y a la Kirin Cup.
Et Youri, d'ailleurs, quand tu arrives en équipe de France, il y a un déficit sur le plan offensif. Les attaquants sont de grande qualité, mais on marque pas beaucoup de buts. Et toi, tu arrives et tu claques but sur but, en fait. Donc, t'as mis un pied, mais t'as mis le deuxième pied à ce moment-là.
Ouais, c'est vrai. J'ai saisi cette opportunité-là. Même si au départ, je suis pas vraiment attaquant, mais toi, le haut niveau, en fait, t'as pas besoin de beaucoup d'occasions, tu vois. Tu t'entraînes pour la petite occasion que tu vas avoir, et en fin de compte, souvent ça s'est passé comme ça. On n'avait pas des milliards d'occasions, mais quand je l'avais une, j'en étais au fond.
Il y avait Gravelaine qui était pas loin aussi autour. Hein. Mais après, il est pas resté longtemps. Mais...
Et est-ce que pendant cette période foot, Youri, parce que tu essayes de montrer tout ton talent, t'as 3 mecs devant qui ont une grosse personnalité. Est-ce que tu ressens quand même quelque chose de difficile à gérer parce qu'ils s'entendent pas forcément, quoi?
Non, parce que tu sais quoi, j'étais pas dans ce mood-là, quoi. Je veux dire, moi, j'arrivais jeune, frais, je veux pas commencer à, tu vois, au contraire, quand j'ai jeune, j'avais déjà un peu d'expérience, mais je voulais pas entrer
T'as jamais été un mec à problème, toi, non plus?
Non, exactement. Tu me connais, les problèmes, moi, je les réglais, tu vois, c'était vite. Je suis pas un mec qui fait des petites messes basses par l'arrière ou qui va chercher à écarter un mec. Moi, c'est l'entraîneur qui décide, il me met sur le terrain, je fais mon meilleur, et puis si on peut gagner tous ensemble, tant mieux. Et puis, moi, si j'ai marqué beaucoup de buts, et toi, des fois, Franck ou Christophe, tu dis le 1-2 ou pas 1-2, si j'ai marqué beaucoup de buts, parce que les mecs, ils me faisaient confiance, vous m'avez fait confiance. Si vous ne faites pas confiance, jamais je marque des buts. Si je tire 20 mètres, c'est parce que mon père et ma mère, ils me font confiance que je tire 20 mètres, parce qu'il y a les joueurs qui sont autour de moi, il y a les joueurs qui font autour de moi. Ils font confiance, donc la praline, c'est la même, la lucarne.
Voilà. Tu vois, Dugas, si on te filait des ballons de merde, c'est parce qu'on te faisait confiance.
Non, mais je suis en train justement de réfléchir que je marquais pas un but parce qu'on me faisait pas confiance dans l'enfoiré.
Ça va, c'est notre faute si tu marquais pas les buts.
Ouais, c'est ça.
Attends, on te disait, oh putain, tu vas pas tirer.
Bon, c'est vrai, vous mettiez la tête entre les mains quand j'allais frapper à chaque fois.
Non, on te filait des saucisses parce qu'on savait que techniquement, t'étais capable de gérer le problème.
Youri, comment vous avez vécu toute cette période où l'équipe de France est critiquée pour son jeu offensif jusqu'au début de la Coupe du Monde 98? Il y a quand même des doutes quand on est joueur offensif de cette équipe. Comment on le vit?
Non, je m'en foutais des critiques. Les critiques, on s'en fout. Moi, je savais qu'on était un groupe fort. Il y avait un groupe jeune. Il y avait une bonne mentalité. Il y avait des mecs qui parlaient le même langage. Voilà. Et moi, je peux le dire parce que par exemple, je prends Marcel ou Didier, au départ, j'étais pas copain avec eux. Ils jouaient dans les clubs, on était rivaux, on parlait le même langage. Le même langage, les gens qui veulent gagner, qui veulent avancer ensemble. Et c'est pour ça qu'en équipe de France, il y avait un vrai plaisir à se retrouver. On était tous dans nos clubs à jouer avec une grande compétition, mais dès qu'on arrivait en équipe de France, on était vraiment contents d'être ensemble, et même si c'était très compétitif. Moi, je me souviens des séances en équipe de France où le ballon, il sortait jamais, quoi. Je veux dire, des fois, Aimé, il devait arrêter l'entraînement parce qu'il y avait trop d'intensité, tellement, techniquement, c'était incroyable.
Youri, on se retrouvait même la veille du rassemblement pour bouffer ensemble, pour être ensemble, pour passer des soirées ensemble.
Même des fois, l'avant-veille.
On s'appelait.
C'est que nos femmes n'étaient pas au courant.
C'est vrai. Si.
Non, mais c'est vrai. Non, mais tu vois, tous ces moments-là qu'on partageait, tout ça, c'était incroyable, quoi. C'est comme ça qu'on a pu, dans des moments difficiles, quand on va en Roumanie, qui sait qui met un copec sur nous quand on va jouer en Roumanie?
On en a parlé la semaine dernière, ouais.
Et oui, c'est victoire.
Et est-ce que tu te sens, à un moment donné, Youri, en concurrence avec Zizou?
Jamais.
Parce que vous êtes au milieu de terrain, vous êtes des...
Ouais, mais jamais.
Même pas au début, quand il arrive, tu sens pas.
Jamais.
On va y revenir dans une seconde. Il y a encore des matchs avec l'équipe de France à aborder. On fera pas de blind test, mais on reste sur la carrière de Youri Djorkaeff jusqu'à 20h. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Tim Duga.
À partir de 20h sur RMC, ce sera par ici la sortie, votre rendez-vous de sortie de crise. Mais d'ici là, on continue de détailler et on termine la carrière de Youri Djorkaeff. On va faire quelques moments marquants de 98 et 2000, la Coupe du Monde et l'Euro que vous gagnez ensemble. Alors moi, le but qui me revient tout de suite, c'est le but contre l'Espagne en 2000.
Il fait du bien celui-là.
Mmh. En quart.
Ouais. Il nous fait du bien. Surtout c'est un contre sur un corner espagnol. Je crois que même je récupère le ballon 18 mètres, dans nos 18 mètres. Et puis c'est Patrick qui remonte tout le ballon. Et la décale sur le côté. Et là, je fais toujours. Quoi, tu vois, dans ce moment-là, le plus difficile, c'est de faire le bon contrôle. C'est te l'amener au bon moment, si tu te loupes un petit peu, le ballon il reste là. Donc, tu vois, le contrôle dans ce moment-là est plus important. Le contrôle et derrière enchaînement frappe. C'était un gros match, enfin, un gros. L'équipe de France, je crois que on était au maximum de ce qu'on pouvait faire. Et surtout, on avait une qualité de jeu qui était incroyable. On était craint dans le monde. C'est vrai qu'on était champion du monde, mais en plus, tous nos adversaires nous regardaient et étaient admiratifs du football qu'on développait.
Oui, vous en parlez souvent tous, hein, en disant que 2000, vraiment au niveau du jeu, c'est là où vous êtes le plus épanoui. Hein, Dugat en parle souvent.
Et pourtant, tous les matchs étaient difficiles, ont été accrochés. L'adversité était rude. C'est plus les championnats d'Europe ou les coupes du monde de maintenant. Hein. C'est sûr que toutes les équipes qui étaient dans ces phases finales étaient des équipes de très très haut niveau. Il n'y avait pas de match facile. Les premiers matchs étaient très difficiles et huitième, quart, demi, enfin tout a été très très compliqué. Ouais, ça c'est sûr.
Sur la Coupe du Monde 98, on a parlé tout à l'heure de Ronaldo. Est-ce que toi, tu as eu des vraies nouvelles sur son état de santé? Parce que tout le monde en a parlé. Mmh. Et après, être rentré au mois de septembre, en août-septembre, est-ce que vous en avez parlé? Qu'est-ce qu'il a eu vraiment? Est-ce qu'il était vraiment en pas en méforme, mais est-ce qu'il était atteint physiquement?
Écoute, moi je l'ai vu avant le match, quand on a commencé à... Souviens-toi, dans le vestiaire, quand tout le monde commençait à dire ouais, Ronnie va jouer, Ronnie va pas jouer, tout ça. Moi, j'étais le voir. T'imagines, ça faisait un an qu'on parlait de ça. Ça faisait un an qu'il venait à l'Inter. Ça faisait un an après chaque entraînement, on faisait séance de frappe, celui qui marque, il gagne la Coupe du Monde. Que des jeux, mais pendant un an. Et d'un coup, on se retrouve tous les deux en finale et l'autre, soi-disant, il est pas bien, tout ça, donc je vais le voir tout de suite, et je dis, tout va bien, il me dit, t'en fais pas, je vais être là, je vais t'intéresser là, parce que je vais te botter les fesses, et je veux qu'ils soient en pleine forme. Et puis, à la fin du match, j'ai été le revoir, on a échangé nos maillots, tous les deux.
Ouais.
Et il était dégoûté, il me racontait, tu te rends compte que Zidane a marqué deux buts de la tête, il a même pas sauté. Comme quoi, nos défenseurs ont été nuls. Ouais. Il me parlait de ça, c'était, tu vois, c'était.
Il a jamais parlé de son malaise ou de mal.
Oui,
de
il était
malaise,
normal, non, comme ça.
Ouais. Écoute, les gars, après, on est reparti, on a repris l'entraînement ensemble à l'Inter, ok? Donc, on en a rediscuté, et c'était. Jamais rien.
D'accord. Il n'a pas évoqué l'idée d'arrêter le foot parce que Franck Leboeuf l'avait dégoûté. Non.
Non.
Non, mais attends, le pire, c'est que j'ai été voir un match de Champions League et j'étais assis à côté de Rai. Et Ronaldo arrive et il dit bonjour à Rai. Il savait pas qui j'étais.
Ah oui, d'accord. Très bien. Youri, il y a un autre truc important à la Coupe du Monde 98, c'est le match contre l'Italie en quart de finale. Parce que vous jouez à l'Inter à ce moment-là, donc vous les connaissez tous. Et il y a cette histoire de. Alors, moi, ce que j'avais entendu, donc je demande confirmation. Dans la séance, vous tirez pas parce que c'est pas Luka qui vous connaît par cœur, le gardien en face?
Ouais, tout à fait. Il y avait plein de choses comme ça avant ce match. Et moi, je connaissais bien l'Italien. Je connaissais bien Paluca. J'ai marqué des sacs de goals. À chaque fois que j'ai joué contre l'Italie, c'était Paluca dans la cage. À chaque fois, j'ai marqué. Et puis, je savais que je ne marquerais pas. J'en ai parlé à quelqu'un de proche chez moi, de ma famille, et je dis, si on en pénalty, je sais qu'il va me l'arrêter, je sais qu'il ne marquera pas, tout ça. Pourtant, j'avais pris, dans les prolongations, j'avais pris un gros pet et tout. Donc, je me suis retrouvé à réfléchir, tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir, et tu dis, qu'est-ce que tu fais? Je tire, je loupe, je tire, je marque, je dire, je laisse une chance pour l'équipe de se qualifier, donc j'ai pris cette décision-là.
Et t'as laissé tirer Lisa.
Ouais, c'est ça, j'allais dire la même chose.
Ouais, Lisa a tiré, mais pour moi, ça n'a rien changé. Derrière, on s'est qualifié.
Ouais, c'est clair.
Si on ne s'est pas qualifié, j'aurais tiré. J'aurais peut-être marqué ou pas marqué, je ne sais pas.
Yuri, t'aurais pas pu donner le conseil à Trezeguet de ne pas tirer face à Buffon en 2006 ? Parce que justement, il s'est trouvé dans la même situation.
Après, c'est, lui, c'est planté. Tu sais, un truc d'avancement, c'est t'attaquant, c'est vraiment personnel. Puis, voilà.
Yuri, merci beaucoup.
Merci Yuri, c'était
salut,
super
Yuri,
de t'avoir.
Merci.
Merci.
C'était un bon moment, c'était un super moment.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, de vos familles.
Vous aussi,
toi aussi. Et embrasse tout le monde.
Je vous embrasse.
Et puis continue le boulot, mon Yuri. Hein.
Ouais.
Ça bosse dur là.
Je sais.
Et on se revoit, on organisera les 25 ans ou les 30 ans hein, avec DJ et Duga. Hein.
Ouais.
Non, mais là, j'organise le match pour le prochain Classic à Fondation. On va faire le match pour le Covid. Le premier match qui va être pour la recherche du Covid et on va l'organiser.
Génial.
Tenez-vous bien, les gars.
Toi aussi.
Super.
Merci Yuri.
Salut, bisous.
Yuri Djorkaeff, donc, qui était avec nous. Et ben voilà, ben on s'est régalé encore une fois.
C'était top.
Ouais. Voilà pour la carrière de Yuri Djorkaeff en détail. C'était un vrai bon moment sur RMC dans Team Nuga.
Tout de suite, Journal Moyen.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Team Duga.
Adrien Aiguin.
Direction Lyon.
Je voulais introduire cette conférence par une réflexion que faisait DJ Snack.
Ah oui, on a beaucoup entendu Jean-Michel Aulas donc ces dernières semaines.
C'est moche, mais c'est très marrant.
Peut-être un peu trop, mais en tout cas, il a bien rempli les émissions de foot. On entend des joueurs lyonnais aujourd'hui. Ça fait plaisir, c'est rafraîchissant d'entendre des joueurs sur le compte Twitter de l'OL. Interview de Bruno Guimarães, le Brésilien de 22 ans. Il y a toujours vécu au Brésil, lui, depuis qu'il est tout petit. Hein, il est né au Brésil. Jusqu'à ses 22 ans, il vivait au Brésil. Il est arrivé en France, à Lyon, exactement le 30 janvier. Il y a un peu plus de 3 mois. Eh bien, il est bluffant. Il répond à des questions, déjà, en français. Questions sur son adaptation au foot français, la Ligue 1, eh ben il se balade.
Je pense que le football sont similaires ou les autres pays. Je suis content pour ma adaptation à l'équipe, à les quartiers, les villes. Et je suis très content.
Je suis très content, c'est pas mal franchement. Wow, il est confiné chez lui pendant de nombreuses semaines. Je pense qu'il a dû travailler. Peut-être qu'il écoutait Team Duga tous les jours pour apprendre le français. Mmh. Et écoutez bien, parce que parfois c'est difficile. Même avec une question un peu décalée sur le confinement, justement, eh ben, il s'en sort bien. Question sur ce qu'il a eu le temps de faire ou de ne pas faire pendant toute cette période. Jean-Louis, écoute bien, il va vite devenir ton copain celui-là.
Par exemple, lire, cuisiner.
Non, cuisiner, non. Je ne sais pas cuisiner. J'essaie seulement manger.
Eh oui, seulement manger, pas cuisiner, mais manger, comme Jean-Louis, voilà. Il ne cuisine pas, mais bon, s'il y a un plat.
Il a raison, parce qu'en général, quand on fait la cuisine, on ne mange pas derrière. C'est vrai qu'on voilà. Coupe l'appétit un peu de faire la cuisine.
En tout cas, bravo, monsieur Guy Marèche, parce que franchement, la progression.
Ça me coupe pas l'appétit quand je fais à manger.
La progression est quand même belle.
Je crois qu'il n'y a rien qui peut te couper l'appétit, toi.
Non, pas grand-chose, effectivement. Ouais.
Sans transition, on va directement passer au plateau télé, parce que je sais que Duga. Il regarde la télé le soir comme tous les Français, comme Willy, comme Jérôme.
Bah, le soir, du gars, il passe sa journée devant la télé.
Oui, mais le soir, le prime, etc. Donc sans transition, plateau télé, s'il vous plaît. Alors, du gars. Je sais que tu es un fidèle téléspectateur, t'as envoyé spécial du gars sur France 2, tu apprécies du succès, tu m'as déjà parlé, t'as bien envoyé spécial. Mais peut-être que ce soir, tu vas zapper sur TF1 parce qu'il y a du foot sur TF1. Il y a le Dîner de cons en prime, un des films les plus aimés des Français. Et le foot fait partie de ce film avec cette scène mythique. On va se faire un petit plaisir, Thierry Lhermitte est inquiet pour sa femme. Sa femme est partie ailleurs. Bon, il missionne Jacques Villeret. Villeret doit appeler Daniel Prévost pour recueillir des informations sur l'épouse de Thierry Lhermitte. Mission très importante. Mais au même moment, quand il appelle, y a un match de foot à la télé.
Lucien, tu vas bien? C'est François.
Alors, comment il va ce soir, monsieur l'Auxerrois?
D'abord, je suis pas Auxerrois, et puis de un, c'est pas encore perdu, hein.
C'est pas perdu. Écoutez-le, le con, il se prend 2 buts dans les 5 premières minutes et il dit que c'est pas perdu. C'est des guignols, les Auxerrois, des petites bêtes, des gens foutres.
Ah oui, et qui s'est fait déchirer la semaine dernière à Bordeaux? C'est Auxerre peut-être? Dans le cul, l'OM, dans le cul, dans le cul.
Va te faire foutre, tiens.
Toi aussi, va te faire foutre. Oh, mais quel connard, ce type.
Il y a autant d'insultes que dans le cul.
Donc ouais, là, vous voyez la scène, il a raccroché, il n'a pas du tout accompli sa mission, ouais, l'ermite. Exactement. Le fusil du regard, la suite, ben, je disais magique.
Oh, allez l'OM, eh. Oh shot l'OM, oh shot l'OM, oh shot l'OM, quel connard. Je le rappelle,
ouais, parce que là, je vois que il y a un truc qui cloche.
Ce film, je pourrais le regarder 100 fois, je risque.
Ah ouais, c'est au même van.
C'est exceptionnel.
Et pourquoi Auxerre? Pourquoi l'OM? On ne sait pas. Pourquoi?
Ouais, faut pourquoi voir ces deux clubs ont été choisis. Ouais, ou,
peut-être un choix des acteurs aussi.
Ouais, t'aurais pu enquêter un peu.
Oh shit, ouais, ben.
Tu connais des acteurs quand même.
On va envoyer un petit texto à Thierry Lhermitte.
Si tu veux appeler Jacques Villeray, ça va être compliqué.
Oui, là, oui, mais effectivement. Ouais. Mais bon,
non, ouais. Alors non.
Tu mets Lionel Charbonnier dans le film, hein, quand même.
Bien sûr.
Bah oui. Ouais. Voilà, bon, bah, faites-vous plaisir. Hein, écoutez RMC, mais si vous avez l'occasion de zapper un petit peu sur le dîner de cons, c'est magnifique si vous ne connaissez pas. Et on parle un peu de foot.
Merci Adrien.
Excellente idée. Merci Adrien.
Je vous rappelle quand même qu'un jour, pour compléter ça, Noël Le Graët nous avait quand même proposé de venir dîner un soir, un mercredi, dans une interview. Bah oui, allusion au dîner de cons. Bah bien sûr.
Il avait invité qui?
Bah du gars et moi. Parce qu'on comprenait pas ce qu'il voulait nous dire. Et donc il dit qu'est-ce que vous faites un mercredi soir.
Je m'en souviens même pas.
Ah si, moi je m'en souviens très bien. Bon voilà, on ressortira l'expérience.
Il faudra le ressortir ça. Bah oui,
bien sûr. Si Adrien avait fait son boulot, il l'aurait ressorti évidemment là. Mais bon,
j'ai jamais oublié, tu vois, j'en rafraîchis la mémoire.
On sera de retour lundi en direct entre 18h et 20h. On continuera de commenter l'actu foot et de revenir sur des moments marquants. On refera le fameux France Andorre lorsque Franck Leboeuf a évité une énorme déconvenue à l'équipe de France. Rendez-vous lundi donc dans Team Duga sur RMC avec Duga et toute l'équipe. Dans un instant, c'est par ici la sortie sur RMC.
RMC 18h-20h, le meilleur de Team Duga.